Alors, bienvenue à Podtrek. Aujourd'hui, c'est notre 12e épisode.
Ça l'est-tu pour de vrai?
Ouais, ça l'est pour de
okay.
vrai. La dernière fois, on a dit que c'était le 10e, mais finalement, c'est le 11e. Puis la dernière fois, on avait dit qu'on allait faire un épisode sur le pilote de Deep Space Nine. Finalement, on a décidé de prendre un petit break des pilotes, puis vraiment juste faire un épisode discussion.
Ouais.
On va parler de nouvelles. Puis on va parler de un petit peu de Deep Space Nine. Je viens de finir de réécouter la série au complet pour une deuxième fois. Puis
qui explique pourquoi je n'ai pas réécouté la première. C'est mon père Mario.
Puis on va se faire on va parler du futur de la franchise.
Notre futur.
C'est ça. On va chacun dire notre top 3 des futures séries ou films de Star Trek.
Il va sûrement peut-être en avoir 6-7 aussi. On va voir. On va voir ce qu'on est rendu en boisson.
C'est ça.
Ou combien de temps qu'il nous reste dans notre enregistreur ouais. ici.
Alors, pour commencer les nouvelles, ben la grosse nouvelle, c'est le nouveau trailer de Discovery saison 2. Donc, je m'attendais à ce que ce soit juste un teaser, mais finalement, c'était un full trailer. Puis, ça l'augure bien. Il y a un petit peu de Lenny Kravitz pour nous dire « Ok, cette fois-ci, ça va être un peu plus rock'n'roll, ça va être un peu plus le fun, ça va être, je pense qu'il va y avoir un petit peu plus d'humour. » Donc, dans le trailer, ça part là où la saison 1 a laissé. Rendez-vous avec l'Enterprise, Captain Pike,
qui commandeer le...
puis arrive puis il dit « Ben, je prends... »
Vous n'avez pas de capitaine.
Je prends le commandement du Discovery.
J'ai un jeune Kirk. Non, il est même pas là, Kirk.
Non,
encore.
Kirk n'est pas là. Je parle le commandant du Discovery. Puis on comprend que il y a eu plusieurs comme une espèce de flash rouge à travers comme la galaxie qui sont apparus en même temps. Puis ils se demandent c'est quoi.
C'est du Red Matter, Mario.
Non, je pense pas que c'est ça. Puis ils veulent investiguer ça. Et. Parallèlement, on comprend que Spock a disparu, puis qu'il est probablement allé investiguer ça. Donc, on mentionne Spock. Là, ça a été confirmé que Spock va faire une apparition dans la saison 2. Donc, ils n'ont pas annoncé encore c'est qui va le jouer. D'après moi, ils sont en plein casting là.
Mais penses-tu qu'il y a des chances que Zachary Quinto le prenne?
Non, je pense pas, parce que justement, Pike, c'est pas le même acteur.
Ouais, j'avoue. Hein. Il faut juste qu'on accepte que c'est séparé. Il
faut
tout.
Accepter que c'est séparé. Puis, même si c'est le timeline du Prime. Puis,
mais c'est intense quand même faire un Spock pendant qu'il y a un très bon Spock très bien établi en ce moment. Fait que ça, c'est, moi, je trouve ça un peu weird. Ouais. Là, mais je comprends que c'est séparé. Tout ça, je le respecte. C'est pas quelque chose que je vais tenir en compte la série. Mais c'est quelque chose que j'aurais aimé voir.
Je te dirais que cette pression-là. Zachary Quinto, il l'a eu quand il était casté. Maintenant, on dirait que, vu qu'il a déjà eu un autre Spock, cette pression-là est tombée de « Ok, quelqu'un d'autre peut jouer Spock. »
Ah, fait que toi, t'es plus ouvert à l'idée que « Fuck it, tous les personnages, n'importe qui peut jouer n'importe quel personnage, peu importe la race ou la couleur, genre. »
Absolument.
Ouais, c'est ça.
Ben, je pense pas que, tu sais, Spock...
Monsieur Lepage est d'accord.
Ouais. Ils vont pas caster un noir.
Ouais, non, mais je voulais pas aller dans cette direction-là, c'est une joke. Là. Ouais. Mais je comprends qu'elle veut dire que les personnages sont plus sacrés. Kirk est plus sacré à.
Non, absolument.
Comme tout est
plus. Je pense que les films de J.J. Abrams, ça a défait ce côté-là, genre de.
Pour le meilleur.
Juste eux autres qui ont
pour le pire.
Tu sais, ces personnages-là méritent de continuer à vivre.
Absolument.
Puis, en plus, Leonard Nimoy était là dans les films du Kelvin Timeline.
Ouais, puis, il a
donné son blessing et tout. Donc, ça appartient pas à ces acteurs-là. Ils ont établi une façon de les jouer. Ils ont établi une image. Mais maintenant, c'est comme n'importe quel bon personnage, un peu comme Batman ou Superman ou James Bond, tout ça, c'est des personnages qui peuvent aussi prendre différentes formes, qui peuvent évoluer, qui peuvent avoir plusieurs interprétations.
100% d'accord.
Ça fait que moi, je suis juste comme excité de dire Spock, il va être là, puis ça va être un nouveau Spock, puis j'ai hâte de voir comment ce Spock-là va être interprété.
Moi aussi.
Puis ils l'ont dit en entrevue, ça va être un Spock différent qu'on est habitué, parce que c'est une époque que la seule fois qu'on a vu Spock de cette époque-là, c'est un petit peu dans The Cage. Mais encore là, The Cage, ça se passe après, tu sais. Donc, c'est un Spock plus jeune, qui est vraiment encore en conflit avec sa famille. D'ailleurs, dans The Animated Series, il y a un épisode de Spock ado, où est-ce qu'il est chez lui, puis il se pogne avec son père, puis il s'en va se perdre dans sur Vulcan, dans la nature, puis tout ça, tu sais. Ça fait que c'est un Spock. Donc, faut s'attendre, tu sais, à un Spock un peu plus émotionnel, si on veut. Tu sais, un Spock qui.
Mais Spock est moitié humain, là. Faut jamais qu'on
c'est
l'oublie.
Ça, c'est ça, il est moitié humain.
C'est ça, en fait.
Il va dealer avec. Puis le fait qu'il soit moitié humain, il doit dealer avec toutes sortes de bullshit. Puis.
Il est un rebelle, puis on le voit dans le Kelvin Timeline. Ouais. Là, tu le vois, là, le jeune petit fendant, tu le vois. Une des meilleures scènes de Spock dans le film de J.J. Abrams, c'est justement quand il est accepté à l'école des Vulcans, puis il est prêt à y aller, puis la minute qu'il se fait insulter sur son héritage humain, c'est tu vois qu'il décide là, qu'il est comme, yeah, non, ok, fuck you all. Puis c'est le Spock qu'on aime, ça.
Ouais. Puis on a quand même déjà établi aussi dans la première saison de Discovery certaines choses par rapport à son père. Par rapport à Burnham, sa relation avec Burnham.
Mais ça, c'est touchy en plus, comment que Burnham rentre dans l'histoire.
Ouais.
Parce que. Puis en plus, là, on voit quand même un gros événement qui se passe là, ouais. À travers de la galaxie. Fait que, est-ce qu'on parle de d'autres memory wipes? Est-ce qu'on parle de Burnham qui se fait effacer de la mémoire? Est-ce qu'on parle d'un autre renaissance? Est-ce que Spock finalement est mort deux fois?
Non, c'est le search for Spock.
Ouais, c'est ça. Est-ce que Spock il va se faire renaître encore, puis être une nouvelle personne, puis être weird, puis aller dans.
Non, je pense pas qu'ils vont refaire ça, mais Kurtzman a dit que ça va être expliqué pourquoi Burnham n'est plus jamais mentionné dans l'histoire.
Il a dit ça, hein? Ok, ouais, ça je suis pas au courant, je suis pas univers à ce point-là.
Ils vont syncher de plus en plus avec le canon établi. Tu sais, je pense qu'ils ont parti Discovery vraiment comme. Genre, tu te demandes comment ça va fitter avec le canon, puis je pense que plus ça va avancer, plus ils veulent fitter ça.
Discovery fit parfaitement parce que c'est une mission méga covert, que c'est très normal que ça n'aurait jamais été mentionné. Puis on voit très bien que le Sport Drive, c'est quelque chose que tu veux pas fucker le chien trop avec.
Non, c'est ça.
Fait que tu vois que c'est une genre de technologie qui ont droppé, puis que ça fit. Puis même les hologrammes, là, je commence à accepter que les hologrammes, c'est chaotique un peu. Là.
Ouais.
Comme quand tu vois, on avait parlé un peu quand on avait écouté, quand on avait dans notre show, l'épisode sur Operation Firepoint.
Ouais.
T'es là, puis tu vois le holodeck qui est là, puis c'est comme. Ça, c'est qu'est-ce que les hologrammes sont rendus. Là. On s'en crisse-tu tellement des hologrammes grincheux que
ben,
le monde
non, c'est
disait.
Ça, parce qu'au fond, tu sais, on est comme, ah, oh, la technologie est plus avancée. Ben, pas vraiment, parce que justement, dans TNG, ben, les hologrammes, ça
sont la vraie vie. Ils sont vrai, là, ils existent, puis tu peux tout recréer. Puis ils utilisent juste pas, comme il n'y a pas d'utilité.
Ouais.
Je trouve que c'est un. Le hologramme en conversation dans les films de sci-fi, je trouve que c'est un trope. Peut-être j'utilise le mauvais mot, mais je trouve que c'est de quoi qui est taqué pour que ça ait l'air futuriste, mais c'est vraiment un futur des années 70, ça, où les hologrammes étaient nouveaux. Mais les hologrammes, c'est zéro pratique. Là.
Non, c'est ça. Puis, tu sais, on a des fois cette vision que la technologie, elle évolue de façon linéaire. La technologie évolue pas de façon linéaire.
Elle régresse des fois. Là.
Elle évolue selon les impératifs sociaux et économiques.
Ouais.
Tu sais, je suis sûr qu'il y a 30 ans, tu t'es dit, dans les années 2000, il va y avoir des voitures qui volent. Mais il n'y a pas de voitures qui volent parce que il n'y a pas un impératif social ni économique à ce qu'il y ait des voitures qui volent. Par contre, les télécommunications ont beaucoup évolué parce que, hey, on peut maintenant communiquer puis échanger de l'argent puis faire de l'échange sans bouger pratiquement. Tu sais, ça fait. Tu sais, je me rappelle à un moment donné, à l'UQAM, j'étais en cours de création de terrain, puis j'avais écrit comme une petite histoire de science-fiction qui était sur un vaisseau, puis c'était comme dans une salle de classe, puis à un moment donné, j'avais écrit qu'à la fin du cours, les étudiants, ils ferment leur fermeture éclair sous leur sac, tout ça. puis là, tu sais, on donnait des commentaires chacun sur les histoires des autres. Puis à un moment donné, il y a une collègue de ma classe qui me fait le commentaire. Ah, on est dans l'espace, dans le futur. C'est
politically correct, ton affaire, une collègue de... Elle voulait une estie de conne qui est en train de gosser pour rien. Hein.
Non, je dirais pas ça de même, mais... tu sais, elle m'a dit, ah, ben comment ça se fait qu'il y a encore des fermetures éclairs dans le futur? Puis tu sais, sur le coup, j'ai juste acquiescé, puis j'ai comme pas réfléchi à la question. Puis après ça, rendu chez nous, j'étais comme, mais pourquoi il y aurait pas de fermeture éclair?
C'est clair.
Pourquoi est-ce qu'on remplacerait les fermetures éclair par, genre, des lasers? Des
non, lasers? Mais ta réponse était quoi qu'elle a demandé?
Sur le coup, j'ai juste fait comme, ah ouais, t'sais, j'ai fait comme si, genre, sur le coup, je me suis dit, ah ouais, j'ai pas pensé à ça.
Mais t'aurais pu voir qui aurait été concédé.
Ouais, j'ai concédé sur le coup parce que j'ai comme pas réfléchi au. Mais rendu chez moi, j'étais comme, pourquoi il y aurait pas de fermeture?
La bonne réponse était justement ça, pourquoi pas, puis tu aurais fermé à gueule, ben, puis le professeur aurait été comme, fuck it hot ce gars-là.
C'est ça. Mais,
il va gagner un Gémeaux un jour, lui.
sur une série de science-fiction. Ou est-ce qu'il y a sûrement des fermetures? C'est ça.
Ouais, mais anyway, ça va super. Moi, je trouve que dans Discovery, je trouve qu'on s'en va dans une direction qui est le fun. La série est le fun. Puis, tu sais quoi? Fox, CBS, ils ont eu du succès avec ça. Plus que assez de succès pour montrer que le brand, il est fort. Ils ont mandaté plein d'autres affaires. Ouais, on va toucher ça tantôt, mais...
C'est Kurtzman, je pense qu'on avait dit au dernier épisode, Kurtzman est mandaté. Je pense qu'il y a comme un contrat de 5 ans pour... développer davantage l'univers
de Star Trek. Le brand Star Trek est très fort, il y a une énorme valeur, il y a un fan base.
Ouais.
Il faut qu'il soit. Je veux pas. Ça sonne stupide que je dis ça, mais il faut qu'il soit rendu accessible, il faut qu'il soit rendu disponible à tout le monde.
Mm-hmm.
On n'est plus dans une école. Mes chats, ils sont en train de se battre.
Les vieilles séries, elles sont là. Tout est puis là. Tant mieux s'il y a du monde qui commence avec les films de J.J. Abrams ou qui commence avec Discovery puis font comme hey, je vais aller écouter les
autres. Tu vois, il y a une profondeur à un univers qui est bien, puis c'est ça qui est très important. Puis sacrament d'Esti de Calis, on l'a dit de notre premier épisode, faut que les gens arrêtent de hate sur les affaires nouvelles dans Star Trek. Il y a rien de plus anti-Star Trek. Il y a une affaire, puis je sais même pas, je veux toucher ce sujet-là, mais Esti de Calis, que je suis rendu tanné de les fans de Star Trek, c'est tellement il y en a les vocales, tu sais, les vocales non plaisants qui sont contre tous les changements là.
Mm-hmm.
c'est tellement une, ils sont, il y a rien de plus insultant à l'idéologie de Star Trek qu'être des esprits tellement renfermés sur la vieille affaire. Ils sont tellement locked down. Mm-hmm. Sur qu'est-ce qui était déjà établi, puis ils sont pas prêts à changer, qui prouvent qu'ils sont pas des vrais fans de Star Trek en même temps. T'sais, c'est vraiment weird, là. Je veux faire un petit shout-out à Parlons Trek avec M. Cardin, là, que je trouve que c'est un super de bon show. Puis lui, je le vois tout le temps en train de se débattre avec du monde en ligne qui sont tellement pas inclusifs. Hey, quand t'es dans des groupes de Star Trek Facebook, puis t'as une annonce comme t'as du monde qui sont des fans... T'as quelqu'un qui a comme le logo de Star Trek dans son photo de profil... Puis qui est comme, j'ai bien aimé Star Trek, mais je trouvais qu'il focusait trop sur les gays. Puis t'es là, t'es comme, sacrément, t'es qui? Enlève ton esti de photo de profil, t'es qui toi, là? Comme des choses comme ça, là. Puis, comme, shout out à tout le monde qui se défend contre ça, shout out à Cardin. Mais, man, je suis un peu tanné de ça. Puis c'est correct que Star Trek soit cool, OK?
Ouais.
C'est correct. On l'a dit, c'est épisode 2, je pense, là.
Si
ouais.
Tu veux voir quelque chose de pire, là? Va sur les pages de Doctor Who.
OK.
Tous les trailers là, avec le Doctor Who femme, là, tu relis les commentaires. Je t'assure que c'est encore pire.
C'est pire, mais je connais pas le mythos de Doctor Who. Le parallèle que je fais, c'est juste que le concept de base de qu'est-ce qui est Star Trek,
ouais.
C'est tellement une ouverture d'esprit, c'est tellement inclusion totale, ouais. C'est tout ça. Puis je vois, puis l'humanité est qu'est-ce qu'elle est dans Star Trek à cause qu'elle a accepté finalement de faire toutes ces choses-là.
Ouais,
puis ça, je trouve ça fou que le monde, fan de la vieille série, nouvelle série,
ben, si t'es fan de quelque chose que finalement tu comprends pas. Vraiment.
Mais c'est ça. Ah, fuck, ça me frustre.
T'es fan de quoi? T'es fan des vaisseaux? T'es fan des combats spatiaux? T'es fan. C'est quoi qui te parle? dans Star Trek, si finalement, tu sais, je dis, finalement, t'es un peu misogyne, puis finalement, t'es un peu raciste.
What the fuck, là? Moi, je comprends rien de ça. Bon, bon. Je veux pas parler de ça trop souvent.
Mais Doctor Who, l'essence de Doctor Who, c'est le changement. C'est de accepter la fin et le renouvellement constant. C'est ça que Doctor Who. Puis que, genre, la star du show change, puis les personnages secondaires, ils changent. Puis c'est pas juste comme le méta de « Ah, la star change », c'est que c'est imbriqué dans la thématique du show, qu'à chaque fois qu'il change, il meurt.
Mm.
Puis il renaît. Puis la personne qui était n'existe plus. C'est un peu comme les Trill dans Deep Space Nine. C'est que, tu sais, t'as comme le symbiote qui passe d'un host à l'autre. Tu te rappelles de ce que l'autre a fait, mais t'es une nouvelle personne en même temps, tu sais.
Ouais.
Fait que de pas être capable d'accepter le changement quand t'es un fan de Doctor Who, c'est la même chose, tu sais, c'est comme, ça fait pas de sens. En quoi t'es un fan de Doctor Who, en quoi tu comprends Doctor Who, tu sais.
C'est, ouais. Moi, c'est des choses comme ça qui me frustrent.
D'ailleurs, t'écouteras le film An Adventure in Space and Time.
Faut que je touche des choses de Doctor Who. Je sais, Doctor Who, là, c'est quelque chose pour moi.
Mais avant d'écouter Whatever de Doctor Who, écoute.
Ouais, l'histoire de la création du show.
L'histoire de la création, parce que justement, ces thématiques-là sont présentes, puis sont vraiment bien amenées, puis c'est vraiment intéressant. Mmh. Mais bref.
Ouais.
Autre grosse nouvelle, c'est Rebecca Romijn.
Juste Rebecca Romijn. Mystique.
Ouais, celle qui jouait...
Rebecca Mystique...
C'est ça.
Romijn.
C'est ça. celle qui jouait Mystique dans les trois premiers films de X-Men. Brièvement dans le 3, mais surtout dans les deux premiers.
Mais c'est son plus gros rôle, c'est Mystique. Là. Ouais. Elle a fait des affaires suicide, mais ouais, ça n'a jamais pogné. Elle a fait de la télé, je pense, aussi. Là,
ouais, c'est quand même... c'est une grosse star, mais c'est pas genre...
C'est une super de belle femme dans ses quarantaines.
C'est ça. Puis, au fond, là, elle vient d'être castée dans le rôle de Number One, qui est la First Officer de Captain Pike. Et là, on a déjà vu ce personnage-là, c'était dans The Cage. Elle était jouée par Majel Barrett. Puis, on savait jamais son nom, il la nommait juste Number One. Fait que j'imagine que là, on va en découvrir plus, ce personnage-là. Puis, c'était un personnage qui était intriguant, parce que, ben, c'était une femme... qui était First Officer, le fait qu'elle soit jouée par Majel Barrett. Puis après ça, ben Majel Barrett a été recasté dans le rôle de Nurse Chapel, puis ce personnage-là a disparu. Ça fait que je trouve ça le fun de ramener ce personnage-là. T'sais. Et de voir, finalement, t'sais, apprendre qui elle est. Puis ça va sûrement aussi comme... Quand tu vas réécouter The Cage après, ben tu vas voir ce personnage-là différemment.
T'sais. J'espère qu'on voit un peu plus de l'Enterprise. Là. Si elle est castée dans un rôle, ça veut dire qu'on va peut-être voir un peu plus
de l'Enterprise. J'imagine que pendant que Pike prend le commandement
de l'Enterprise, elle se promène. Ils vont travailler ensemble. Ils vont faire des affaires. Ils vont avoir des combats. Elle va être
aux commandes de l'Enterprise.
Ouais, ouais. Puis elle va faire des rescues dernière seconde, peut-être. L'Enterprise
va apparaître. Mais vu qu'elle a été castée aussi tard dans la production, ça veut dire que ça doit... Je pense pas que ce soit un gros rôle.
Ouais, mais ça veut dire que l'épisode 1, c'est juste Pike qui se fait beamer sur le vaisseau. Ouais,
ça fait comme... que peut-être dans les derniers épisodes de la saison.
Non, mais c'est parce qu'elle devrait apparaître dans. S'il y a une discussion, elle devrait être là. Là c'est... On la voit sur le screen. Là, ouais,
si elle est sur le screen.
Ah, ben non, il va juste avoir un hologramme de Pike tout seul qui va dire qu'il va commandeer la Discovery. C'est cool. Y a-t-il d'autres nouvelles? Ou...
Non, je pense que c'est surtout ces nouvelles-là.
Il y avait une dernière, quand même, que je t'avais pas annoncé, mais que je vais en parler. Mais il y a le trailer de The Orville saison 2.
Ah oui?
Que je trouvais qu'il méritait d'être parlé de, parce que...
Je l'ai pas regardé.
Ah, j'étais sûr que tu l'as regardé. On aurait dû le regarder. On l'a regardé après.
Mais c'est pas grave, tu peux en parler.
Mais ouais, fait que The Orville fait juste continuer qu'est-ce que je dis qui continue. C'est d'être le TNG qu'on
j'ai
veut.
J'ai juste vu que Seth MacFarlane a avoué que c'était une erreur de marketer la saison 1 comme étant une comédie.
Ben, en fait, j'ai écouté bien des entrevues de lui, puis oui, il a raison en disant ça, mais à chaque fois qu'il était en press junket pour The Orville, il expliquait quand même qu'il tentait de trouver un juste milieu entre comédie et science-fiction drama. Ça, on en avait parlé déjà dans le passé. Puis c'était toujours ça. Il droppait le fait qu'il y avait de la comédie,
ouais.
Mais il essayait. Il disait toujours que le writing staff, leur but principal, c'est de trouver un juste milieu entre les deux.
Le monde, ils vont voir le trailer, t'sais, ils vont pas écouter. La plupart des gens.
Oui, 100%. Mais ça a marché.
Ouais.
Fox, ils ont renouvelé. Fox, ils renouvellent pas souvent. Fox, ils ont renouvelé. Fox, à part ça, The Orville, je pense que ça appartient à Disney maintenant. Il y a des très bonnes chances, là, que j'y pense. J'ai pas pensé à ça. Je viens de penser à ça.
C'est pas encore fait.
C'est pas encore fait, ce deal-là, hein?
Non, c'est comme ça. Prendre du temps.
Mais anyway, ça, c'est une autre histoire. Mais The Orville, saison 2, le trailer démontre qu'on va s'amuser autant que dans la première. Ils ont un plus gros budget. Ils sont vraiment into it. Il va y avoir des sujets très intéressants qui vont toucher.
Je sais pas si j'ai fini la première saison. Je pense pas que je l'ai fini, mais
Anyways, The Orville, c'est excellent. Puis c'est un must pour n'importe quel fan de Star Trek. On sait pas Star Trek, mais c'est le plus gros hommage à TNG qu'on peut avoir. On va parler du futur dans la conversation dans pas long. Mais c'est quand même de quoi qui est intéressant. Puis le trailer de The Orville, checkez-le pour la saison 2. Le fait qu'on a Discovery et The Orville qui sont un peu en parallèle, je trouve que moi, comme fan et consommateur de ce style de télé-là, je me sens très choyé comme homme dans sa fin trentaine, en train de se faire vraiment gâter avec des trips de sa jeunesse, en train de juste se faire cash out en ce moment. Puis ça, j'en ai parlé plus dans la discussion qu'on avait de faire, là, parce qu'il y a des payoffs qui s'en viennent. Je pense qu'on va se faire gâter pour des choses. Mais ouais, je voulais juste mentionner Name Drop The Orville, qui est carrément... Chantant à Benoît Mercier, qui aime m'entendre le dire, mais s'il veut que Discovery soit plus du Star Trek The Next Generation, il a juste à écouter The Orville.
Mais il avait l'air aimé le trailer de la saison 2 de Discovery, Benoît.
À suivre. On va en parler quand il va venir parler avec nous autres sûrement pour saison 2. Là.
Ouais.
On va voir. Là. J'ai hâte.
Okay.
Mais on avait eu un gros hype. Quand on avait écouté la première épisode chez nous, là, puis on va sûrement peut-être faire ça encore. Puis je me rappelle, on avait trop un hype. Notre hype était crissement trop haut.
Ouais.
Puis Ben, je sais que son hype était crissement trop haut aussi.
Ouais, non, c'est
fait
ça.
Qu'on était tous un peu... Moi, je suis une personne qui va pas... Même si je suis un peu mitigé de ce que je viens de voir, je vais pas chier dessus parce que je veux quand même que ça l'absorbe. Je vais juste voir le positif.
Ouais.
Le négatif, je l'ignore complètement. Puis Ben, il est un petit peu plus critique, puis il dégaine, mais on va voir. J'ai hâte de voir avec saison 2, on va voir.
Donc, moi, je pense que ça va dans une bonne direction. C'est plus les mêmes showrunners.
C'est super le fun. Anyways, on va parler du futur, là.
C'est Kurtzman qui a pris le... Puis c'est lui qui est derrière pas mal les films de J.J. Abrams.
Ça paraît dans saison 2, dans le trailer de saison 2.
Donc, c'est pour ça pour les nouvelles. J'aimerais parler un petit peu de Deep Space Nine.
Ah oui, c'est vrai, tu veux parler de
ça. Parce que je viens de finir de réécouter la série au complet une deuxième fois. Puis il y a quelque chose qui... ça m'avait pas autant frappé la première fois que je l'avais écouté parce que j'avais pas encore le big picture de Star Trek. Là, je l'ai réécouté, puis je réalise à quel point le legacy de Deep Space Nine est important en termes de ce que ça a amené au lore de Star Trek. Eric, il fait un petit selfie.
Je t'écoutais, là. Je suis capable de faire deux choses en même temps.
Ouais, moi, j'ai la misère à concentrer sur le selfie. Puis après...
Ok, continue, excuse.
C'est bon. Donc, je vais juste comme faire une espèce de liste de tout ce que Deep Space Nine a établi dans le lore de Star Trek. Seulement en cette saison. Donc, premièrement, il y a Bajor, puis les Bajoriens. Ouais. Tout au long de la série, tu as tout l'aspect sociopolitique et religieux des Bajoriens qui évoluent à travers ça. Puis là-dedans, ben, évidemment, Kira est très importante, mais aussi, plus la série avance, plus...
Le Bajor, c'est-tu les Palestiniens ou les Israéliens encore? Je suis plus sûr.
C'est les Palestiniens.
Ok.
Les Cardassiens, c'est les Israéliens.
Ah, ok. C'est bon.
Donc, Bajor, c'est comme... Major Kira, c'est une Bajorienne. Puis, plus la série avance, plus aussi, t'as Captain Sisko qui assume son rôle de The Emissary. des prophètes, puis plus tu te rends compte qu'il y a vraiment un lien avec les prophètes. En fait, à un moment donné, c'est qu'il réalise que sa mère, c'est une prophète.
Ouais, ça devient deep. Là. Moi, tu m'as perdu. Je suis dû pour écouter des
spectacles. C'est deep, mais c'est bien fait. Là, tu voyais qu'il y avait déjà... Tu sais, les scénaristes principaux de Deep Space Nine, ils ont travaillé sur Battlestar Galactica après, puis de mélanger science-fiction et religion, c'était déjà là.
Ah oh, non, c'était... Ben non, mais science-fiction et religion, ça a toujours été une affaire de Deep Space Nine, ça.
Ouais.
Mais en fait, le fait que les Bajor... Le conflit... En tout cas, c'était toujours, je trouve... C'est quoi le mot là pour dire que c'était un... En anglais, il y a sûrement des mots plus... Une métaphore, c'était toute une métaphore pour qu'est-ce qui se passe. Moi, j'ai toujours pensé que Deep Space Nine, c'était une métaphore qu'est-ce qui se passe en Palestine,
puis la Moyen-Orient. Il y a plein de métaphores pour plein d'affaires, d'ailleurs.
Okay, ouais.
Je me rends compte que j'ai oublié de noter une affaire qui me revient en tête juste parce que tu dis ça.
C'est
je vais
plaisir.
Le dire tout de suite, les Maquis.
Ah ouais, les Maquis, ouais.
Donc, il y a toute l'histoire par rapport aux Maquis qui est super intéressante parce que vraiment comme... Tu te dis, ben, les Maquis ont raison d'être en tabarnak. Ils étaient sur une planète qui était en territoire de la Fédération. Puis là, tout à coup, oh, c'est rendu en territoire cardassien. Les cardassiens arrivent, puis ils nous tuent, puis ils nous violent. Puis la Fédération, comme, oh, on veut pas défaire le traité. Puis.
Ça, c'est tellement actuel, humain, late 90s.
Puis en même temps, t'as. Captain Sisko là-dedans qui reste comme vraiment comme loyal à la Fédération, puis est comme ouais, je vous comprends, mais c'est pas comme ça qu'il faut faire. Oui, mais
puis même s'il est tellement de rebelle en plus contre la Fédération quand il commence dans... le fait qu'il est à Deep Space Nine, c'est à cause qu'il vient de vivre ça au main de fucking le plus grand capitaine de l'histoire de du dernier 20 ans là. Parce que on avait parlé l'autre fois là, mais le début là avec Picard là, il vient de sa famille, sa femme et son enfant s'est fait tuer par Picard là, carrément là. Puis Picard qui vient y donner la station, puis en tout cas que c'est fucking drôle. C'est pas drôle, mais c'est anyway, continue, excuse.
Fait que tu sais, t'as cette sous-intrigue là des Maquis qui est super intéressante, qui en même temps est liée aux Cardassiens. À un moment donné, ça devient personnel. Tu sais, à un moment donné, il y a comme un nouveau security officer de Starfleet qui envoie comme pour aider Odo, parce qu'il ne trust pas Odo comme à 100%. Puis, à un moment donné, j'ai oublié son nom, mais ce nouveau officer-là, finalement, il trahit, parce qu'au fond, il travaille pour les Maquis, finalement. Puis après ça, Sisko, il veut absolument le retrouver, puis l'arrêter, puis tout ça. Puis à un moment donné, il nargue Sisko, puis il fait référence aux Misérables. Oh. Ou est-ce que Sisko, c'est Javard, l'espèce de policier qui devient obsédé pour d'arrêter comme le personnage principal. Qui
devient Russell Crowe, dans le fond.
C'est ça. qui est tellement qui est obsédé, mais que finalement, tu sais, il n'a pas fait grand-chose, celui qui court après. Mais juste par principe, il devient obsédé à vouloir l'arrêter. Ça fait que ça l'amène vraiment une couche intéressante. Ou est-ce que toi, en tant que spectateur, t'es comme... Pour qui je suis supposé prendre là, dans ce conflit-là? T'sais, oui, je suis du point de vue de Sisko. Je comprends Sisko, mais eux autres, ils sont dans une situation impossible. Puis la seule façon qu'ils ont de sortir de cette situation-là, ben c'est de se rebeller, puis de combattre, puis de quitter la Fédération d'une certaine
façon. Mais la Maquis, on n'en a pas assez. Comme la plus grosse représentation de Maquis, c'est dans Voyager. Puis même là, ils sont pas bien établis, je trouve, quand même.
Non,
sont...
mais. Parce que dans Voyager, plus, c'est comme. Voyager, oh, ça... eux autres, c'est des Maquis, mais là, vous faites partie du crew. Ah, ok.
Ouais. Puis il y a une couple d'épisodes où ce que les Maquis sont tannés de recevoir des ordres de la Fédération. Puis il rebelle, mais t'as. C'est quoi son nom, là?
Chakotay.
Puis, calice, ils ont juste un esti de fucking. C'est des humains, les Maquis. En plus, les Maquis, c'est des humains, non?
Oh, oui, c'est des... C'est juste c'est des citoyens de la Fédération.
C'est ça, c'est des... Non, mais c'est un settle... C'est des settlers, là. C'est des...
Ils sont sur des colonies.
Ouais, c'est des colonies,
qui sont d'abord en territoire de la Fédération. Puis là, la Fédération fait une espèce de peace treaty avec les Cardassiens. Puis dans ce peace treaty-là, ils refont certaines frontières. Puis leur colonie se retrouve en territoire cardassien. Puis les Cardassiens, ils arrivent, puis...
Ouais, les Maquis, ils ont 100% raison.
Ils ont absolument raison d'être en tabarnak. Puis justement, un autre point, c'est tout le développement des Cardassiens. Parce que les Cardassiens, tu les vois un petit peu dans TNG. Tu comprends que okay, c'est un peu comme les Romuliens. Ils sont vraiment comme...
Ils sont très stricts.
Très stricts. Des
fascistes.
Puis là, tu as tout leur développement aussi qui prend plusieurs couches avec Garak qui est sur la station, avec... d'ailleurs, ça va être un autre point. Le meilleur vilain de l'histoire de Star Trek, c'est Gol Dukat.
C'est pas la première fois que tu le dis en passant.
Gol Dukat, c'est vraiment le vilain que, genre, ah, oh, tu l'haïs, mais t'apprécies sa présence. Puis là, il y a un bout de la série où est-ce que finalement il devient comme plus. Il est obsédé par Kira, puis à un moment donné, ils ont carrément une mission ensemble, où est-ce qu'ils font de quoi ensemble, puis ils rient ensemble. Puis à un moment donné, les Klingons sont du mauvais côté du conflit, puis Gol Dukat, il combat les Klingons. Puis là, t'es comme, ah, ok, lui, c'est un vilain, puis il redevient gentil. Puis finalement, il y a encore un retournement de situation où est-ce que Gol Dukat, il est comme... Il veut juste prouver à Sisko à quel point il est meilleur. Puis, en fait, c'est que Dukat, il a fait des choses pendant l'occupation qu'il n'est pas capable d'arriver à terme que, ouais, ok, j'ai fait des affaires atroces. Il est tout le temps en train de se justifier. Il est tout le temps en train de dire, oui, on a fait des affaires pas correctes, mais moi, j'ai sauvé... des Bajoriens. Moi, j'ai été gentil avec certains Bajoriens. Ils essaient tout le temps
mais de la justifier. Guerre, c'est parce que, ouais,
c'est juste guerre, un homme vraiment ça. Brisé par ce que...
Par la guerre, c'est une personne...
Ben, par la guerre, mais c'est surtout le fait que cette guerre-là s'est terminée. Il a dû faire face au fait que, oh, du point de vue de plein de gens, je suis un criminel de guerre, puis j'ai fait des trucs atroces, tu sais. Alors que quand il était dedans, ben, il était dedans, tu sais. Mais après, il a dû faire face à ça et il est pas capable d'accepter que Sisko est peut-être moralement plus accepté que lui. T'sais. Donc, c'est vraiment un vilain super intéressant, super complexe. Mais
Sisko, il y a des morts sous ses mains aussi.
Ouais, absolument.
Comme, mais c'est parce que l'affaire de Deep Space Nine, je trouve qu'il est toujours bien faite. Puis qu'est-ce que j'ai de ma souvenir de. Parce que j'ai jamais. Moi, je me suis jamais reclaqué les Deep Space Nine. J'ai vécu les Deep Space Nine, mais je me suis jamais reclaqué. Puis c'était plus comme Deep Space Nine, c'était la série qui était... C'était le premier offshoot de TNG. Mm-hmm. Puis ça, c'était hot. Puis on a déjà parlé de ces affaires-là dans le passé.
Ouais.
Mais pour moi, Deep Space Nine, c'était vraiment une affaire de comment compliqué que la guerre est.
Mm-hmm.
Puis moi, j'ai toujours aimé ça. Mais ouais, des morts vont arriver. Les méchants vont falloir qu'on accepte que des méchants revirent de bord après des atrocités.
Mm-hmm.
Ça, c'est la réalité de la survie d'un peuple et d'une civilisation. C'est quand des clans font des affaires, ouais. À un moment donné, si tu veux résilier avec ce côté-là, faut que tu acceptes. Faut que tu aies des gros consensus, des gros. Des grosses, je sais pas comment le dire, mais faut que tu acceptes des personnes qui ont fait des affaires horribles. Faut que tu acceptes que tu leur donnes une deuxième chance. Mm-hmm. Puis c'est les personnes dans les rôles de leadership. Puis Gol Dukat, c'est l'exemple parfait de ce genre de personnage.
C'est un personnage qu'on parle pas souvent, mais Gol Dukat, il est comme un espèce de second. C'est Damar.
J'ai complètement oublié Damar.
Puis Damar, il a comme pas de l'air important. T'sais, il est là au cours de la série. Puis à un moment donné, il devient. Super important parce qu'à la fin, il y a comme une espèce de l'évolution des Cardassiens, il fait comme une espèce de boucle où est-ce qu'à un moment donné, ben, eux autres, ils ont joint un Dominion, mais finalement, ils deviennent occupés par le Dominion. Puis Damar, c'est comme il est devenu le leader des Cardassiens, puis c'est lui qui est dans l'optique de, à un moment donné, il fait comme, ok, je t'écœuré, puis je me rebeller. Puis il y a comme. Dans le fond, tout le long de la série, il déteste Kira pour mourir. Puis finalement, à la fin, c'est comme Kira qui vient l'aider à. Parce que Kira, elle sait comment faire. De
la des guerre. Rébellions.
Elle sait comment faire de la guerre de guérilla.
T'sais. Ouais, ouais, ouais.
Puis ça fait qu'il y a une belle boucle par rapport aux Cardassiens, par rapport à Kira, par rapport à Damar, qui est vraiment intéressante. Là-dedans, il y a Garak aussi qui est important. Ça fait que toute cette storyline-là est vraiment importante. Puis il y a juste comme des espèces de couches de complexité qui se rajoutent tout le temps, puis c'est vraiment. Puis ça fonctionne, tu sais. Passant à mon point, Deep Space Nine, c'est probablement la série qui assume le plus et fait le plus de références à l'histoire de Star Trek. Mirror Universe, il y a 5 épisodes dans le Mirror Universe. On continue le Mirror Universe qui avait été établi un petit peu dans.
Avoue que c'était des fillers.
Non, c'est des super bons épisodes. Il y a 5 épisodes dans le Mirror Universe. Puis ça continue un peu ce qui avait été établi à propos du Mirror Universe. Et ce qui se passe dans le Mirror Universe, rendu dans Deep Space Nine, c'est une conséquence directe de des actions de Kirk dans l'épisode du Mirror Universe de la série originale. Ça fait que ça, c'est vraiment le fun. D'ailleurs, il y a carrément un épisode TOS où est-ce que il voyage dans le temps puis se retrouve dans un épisode de TOS puis là
les Klingons sont
les Klingons ils réutilisent du footage. Il y a comme une scène où est-ce qu'O'Brien il répond à Kirk puis cet épisode là est juste comme un classique.
Mais il s'amusait tout qu'est-ce qui était Star Trek à télé à cette époque là avait beaucoup de pouvoir. Fait que je pense qu'il y avait la permission de s'amuser avec bien des affaires.
Ouais, ouais. Ben, il n'y avait plus Gene Roddenberry qui était là.
Mais Gene Roddenberry n'était pas là, ça faisait longtemps.
Ouais, ça fait longtemps.
Mais... Ben, longtemps, une couple d'années.
Ouais.
Mais toute la gang, j'oublie les noms, là, mais toute la gang des showrunners puis des producteurs, ouais, ouais. Rick Bergman, les affaires de Berman, Rick Berman. Puis autres, ouais. Ils étaient tous en contrôle un peu de qu'est-ce qui était Star Trek. Puis je trouvais qu'il y avait une belle cohésion avec ce qui se passait. Ouais. Au niveau de la télé, ouais. les films, ils ont tous fucké un peu les affaires parce qu'il fallait qu'ils sentaient le besoin de faire des films.
Mais tu vois, Rick Berman, il n'y avait pas grand-chose à voir avec Deep Space Nine parce que lui, c'était Voyager, c'était de shit.
Ouais, mais Voyager, c'est arrivé comme à la fin de Deep Space Nine, le milieu.
Pas la fin, je pense peut-être saison 3.
Voyager c'était supposé de remplacer Star Trek. Star Trek c'était fini quand Voyager est parti. Sauf ça, c'était. Ouais, je sais ce que tu disais. Il voulait faire un autre Star Trek. En fait, il voulait faire un autre Enterprise.
Il voulait faire un autre TNG.
T'sais. Ouais.
Donc, il y a tout ça
avec à date. Avec des maquis.
Ouais. Il y a tout ça à date. Puis là, à partir de la 4e saison, Worf se joint au cast.
Mais en fait, Worf et la Defiant.
Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'on continue la sous-intrigue des Klingons qu'on avait commencé dans TNG avec Garon qui est Chancellor. Puis là, on introduit le personnage de General Martok qui devient important. Mais toute l'évolution de Worf puis par rapport aux Klingons puis à la culture Klingon puis à la politique des Klingons, ça continue dans Deep Space Nine. Puis ça finit avec finalement Worf, parce qu'à la fin Garen, à la fin du conflit contre le Dominion, il est comme pas content que General Martok il soit rendu aussi hot, parce que General Martok il vient pas d'une house qui est noble. Puis il veut reprendre le contrôle de la flotte. Puis là, il veut juste comme.
Peux-tu juste dire quelque chose, man? Si je me rends compte d'une affaire, le problème c'est la politique d'identité.
Ouais.
Tout le temps. Achille, tout le temps la politique d'identité, la politique de clan, la politique tribale. Christy tabarnak, c'est-tu pas une des affaires les plus tristes de l'existence?
Ouais. Mais c'est un peu ça la fin de l'histoire des Klingons dans Deep Space Nine, c'est que Worf, finalement, il stan, puis il challenge.
Il Garen, va all out là, dans ça.
Il challenge Garen, puis il tue Garen. Puis après avoir tué Garen, t'as genre Martok qui met le mental de Garen sur Worf. Il est comme, c'est toi le nouveau Chancellor. Puis Worf, il est comme, non, il met le truc sur Martok, puis il dit, c'est toi. Puis Martok est comme, I do not seek power. Puis
Worf,
il est comme, Kayla said, great men do not seek power, they have power, trust unto them.
Ouais.
Puis l'idée, c'est que là, ok, ça va être un nouveau empire Klingon, tu sais. Ou est-ce qu'on n'est pas autant pogné dans ces idées-là de genre.
Tu me fais réaliser quelque chose. On l'a pas touché, ce Klingon-là, dans aucun contexte, télé, film, etc. Le Klingon que Worf déclenche,
ouais.
On n'a aucune. Je pense que je viens de changer un de mes top 3 de les futurs. Ok, en tout cas, excuse.
Parlant des Klingons, il y a aussi. Il y a, je pense, au moins 2 épisodes avec Kor.
Kor, ouais.
Kor qui était. On le voyait dans la série originale. Puis que c'est un personnage qui revient dans Deep Space Nine, joué par le même acteur. Et, bon, le maquillage est différent. Mais. là, j'ai oublié son nom, mais c'est. C'est John Colicos. C'est lui qui faisait Baltar dans Battlestar Galactica original. Puis
Au rattachement de Showrunner, Battlestar, puis Deep Space Nine.
ouais. Puis, ça fait qu'il y a des épisodes avec le Klingon Core. Lui, c'est une chose intrigue, surtout avec Jadzia. Parce que Jadzia, elle part sur des aventures de Klingon. Un autre truc établi par Deep Space Nine, qui est devenu très important, Section 31.
On a eu un teaser dans Discovery. Là.
Puis dans Star Trek Into Darkness, Section 31 est important. Puis, donc, tu sais, tu dis, ben, tu sais, Deep Space Nine est comme vu un peu comme, c'est une espèce de offshoot.
Il n'y a personne qui dit ça. C'est qui que tu vises, là?
Ben, non, mais dans le sens que ça n'a pas eu le prestige. Il n'y a pas eu les films puis tout ça.
Ah non, mais parce que ils n'ont pas eu les films parce que c'était juste pas utile. Les films de TNG, ouais, c'était forcé.
Ouais, mais parce qu'à Hollywood, ils ont dit, il y a du star power, on peut faire des films.
Je comprends ça, mais qu'est-ce que je veux en dire, c'est que Deep Space Nine, il y a peut-être pas le même prestige que Star Trek The Next Generation. En fait, tout ce qui est Star Trek...
À l'intérieur même de Paramount, quand tu lis les entrevues avec Ron Moore, il dit que Deep Space Nine, ils s'en calissaient, les producteurs.
Oui, ça, on s'en crisse de ça. Les producteurs s'en calissent de bien des affaires. Mais qu'est-ce que je veux en dire, c'est que de tout ce qui est Star Trek,
ouais,
pour toujours, si la Enterprise n'est pas le centre de l'attraction,
ouais,
Star Trek, ça va être un offshoot. Whatever que tu vas faire out de la Enterprise, ça va être un offshoot. That's it, that's all. Mais je trouve que Deep Space Nine, c'est facile de dire le préjugé du fait que c'était pas respecté et pas aimé, mais tout le monde qui est fan est au courant comment fort que c'est. Puis c'est ça qui est important.
Mais quelqu'un qui arrive qui veut découvrir Star Trek.
Mais non, mais le monde, ils vont les référer. Mais c'est normal.
C'est quoi ça?
Non, mais c'est normal. Tu réfères à l'Enterprise.
En termes de lore, en termes de ce qui se passe
dans la série, en termes de l'enjeu, d'accord, 100% ce que tu t'en vas.
C'est vraiment la série la plus importante.
D'accord.
Si t'enlèves Deep Space Nine, t'enlèves genre 60% du lore moderne de Star Trek.
Du lore post
série originale.
Mais
que Star TNG Trek... est comme, il y a des affaires ici et là, mais il allait pas en profondeur dans rien.
Non, mais il allait en profondeur de leur storyline.
De leur personnage.
De leur personnage, puis de l'Enterprise.
Mais tu vois, en même temps, Deep Space Nine, il allait en profondeur de leur personnage, puis ils ont réussi à aller en profondeur dans tout ce que j'ai nommé à date. Les Klingons sont allés en profondeur, les Cardassiens sont allés en profondeur, les Bajoriens sont allés en profondeur. Mon prochain point, les Ferengi. Tout le lore des Ferengi établi dans Deep Space Nine.
Ils ont un protagoniste très, très Ferengi dessus la station.
Puis d'autres personnages secondaires, le Grand Nagus.
Quark, c'est quoi son nom?
Il y a Quark.
Quark, ouais.
Il y a Rom. Puis à un moment donné, t'as le Grand Nagus.
Ouais, mais là,
t'as toute la sous-intrigue avec Liquidator Brunt. Qui déteste quoi.
Tout ce que je sais, c'est que si tu flattes leurs oreilles, ils pensent qu'ils viennent bander. C'est tout ce que je sais des Ferengi. Mais j'aime les Ferengi. J'aime qu'est-ce qu'ils sont.
Puis ce qui est drôle, c'est que les Ferengi, ils ont vraiment établi comme un comic relief. Mais en même temps, ça fonctionne quand même dans le contexte plus dark de Deep Space Nine. C'est ça qui est drôle, tu sais. Un autre truc qui ont comme plus détaillé, c'est les humains génétiquement modifiés à l'intérieur de la Fédération. Parce qu'à un moment donné, on découvre que Bashir, il est génétiquement modifié. C'est une des raisons pourquoi.
Ouais, mais Bashir, il est non seulement génétiquement modifié, mais c'est une esti de sangsue. C'est pas ça? C'est
Non.
pas. C'est...
Julian Bashir, le docteur.
Ah, j'ai oublié ça. Mais c'est qui la sangsue, esti? C'est pas dans Deep Space Nine qu'il y a une esti de sangsue qui vit toujours, là? C'est quel personnage dans Star Trek, là, où ce que c'est? Je pense que c'est une femme, mais elle est comme juste un host.
Ben c'est ça, c'est les Trills, c'est Jeudi Dax.
Ok, c'est Dax, c'est ça, c'est ça.
Ouais.
Excuse, j'ai oublié ça, ouais.
Mais
Mais
Bashir,
Bashir, je
c'est un
savais pas
humain.
que.
C'est un humain qui, à un moment donné, on découvre qu'il est génétiquement
C'est du
modifié.
cyberpunk shit, j'aime
Ouais.
ça.
Puis lui, c'est un des rares humains génétiquement modifiés qui peut passer pour quelqu'un de normal. Puis à un moment donné, puis tu sais, normalement, si t'es génétiquement modifié, tu peux pas servir dans Starfleet. Il y a vraiment comme une espèce de. À cause de Khan, qui était génétiquement modifié, depuis le conflit avec Khan, c'est complètement banni de te faire modifier génétiquement, même si la technologie est très accessible et très. Lui, c'est un des rares, puis c'était comme ses parents qui ont fait. Ils ont fait ça quand. Il était jeune parce qu'il était comme lent à l'école et tout ça. Puis c'est pour ça que Bashir, finalement, il est devenu un génie de
Tu te
la
rends compte qu'il
médecine.
y a un underground market de modifications qui est
Ouais, c'est
toujours
ça.
actif, là.
Puis il y a deux épisodes où est-ce que la Fédération amène comme une espèce de groupe de personnes, que c'est comme des génies. C'est des gens qui ont été génétiquement modifiés, mais que ça a comme pas aussi bien fonctionné, ça fait qu'ils ont des problèmes sociaux, tu sais.
Un show d'autiste.
C'est ça. Ils sont un peu comme autistes ou tu sais, il y en a une qui est comme juste en train de croiser tout le monde tout le temps, qui est très sexuelle. Il y en a un qui agit comme un peu comme un enfant, mais hyper intelligent. Il y en a une qui parle pas du tout, qui est comme catatonique. Puis t'as comme l'autre qui est comme vraiment comme obsessif, compulsif, puis tout le temps en train de. Puis au fond, Bashir, il se fait comme mandater. De genre essayer de rendre utile ou productif ces personnages-là parce qu'ils sont pas capables de. Tu sais, ils vivent dans un espèce de centre, ils vivent pas en société, puis ils sont pas capables de vraiment connecter avec eux autres. Fait qu'ils se disent, ah, peut-être que Bashir, vu qu'il est comme gentiment modifié comme eux autres, il va réussir à connecter avec. Donc il y a deux épisodes là-dessus, puis tu sais, c'est niaiseux, mais tu viens de rajouter un gros lore à Star Trek, à, genre. Comment les humains génétiquement modifiés sont vus à l'intérieur de la Fédération, tous les préjugés qu'il y a par rapport à ça, la peur qu'il y a par rapport à ça, parce qu'au final, tu sais, c'est un peu comme les.
Ouais, mais c'est parce que tu finis toujours que des créations comme ça deviennent l'Overlord, là. C'est ça la peur ultime,
Ouais.
c'est toujours ça, là.
Ouais. Mais bref, ça, c'est un autre point intéressant. On vient de mentionner les Trills. Évidemment, à travers Jadzia et dans la dernière saison, Ezri, qui prend sa place, on découvre les Trills puis toute la culture des Trills.
On avoue que les Trills, c'est genre le Doctor Who des Star
Ouais, c'est ça.
Trek.
Puis t'as aussi des épisodes vraiment plus par rapport aux Trills puis à la culture des Trills, puis à toute la politique par rapport à qui peut avoir un symbiote ou pas, genre. Puis donc, il y a ça. Et. Là, j'ai nommé tout ça, puis j'ai même pas encore parlé du Dominion. Et toutes les races qui font partie du Dominion, qui eux autres aussi sont fleshed out. Les Vorta, les Jem'Hadar, puis les Founder, c'est toutes des races qui sont vraiment fleshed out. Tu sais, c'est pas genre, ils sont pas là comme en surface, puis on sait juste comme deux, trois choses après deux autres. Ils sont vraiment comme amenés en profondeur, on les connaît. T'as toutes ces intrigues-là, toutes ces sous-intrigues-là, et toutes ces couches-là, et toutes ces. Dans cette saison, puis c'est tout comme imbriqué parfaitement. Il y a comme. Il y a rien qui détonne là-dedans. Il y a tout fonctionne avec tout. C'est. Je me sais à quel point Deep Space Nine, c'est du master storytelling.
Vraiment.
D'avoir comme toutes ces affaires-là sans perdre sans que ça devienne long ou plate, ou est-ce que tu dévis puis la série se perd. Toutes ces affaires-là, puis la série est restée comme focus quand même. Ça fait que tout ça, c'était juste ça, je voulais dire à quel point genre j'étais impressionné en réécoutant la série, à quel point Deep Space Nine a amené au lore de Star Trek, et à quel point c'est une série importante en termes de... qui était en avance sur son temps aussi en termes de storytelling. Tu sais, les, je pense
les grosses arcs.
Je pense les 7-8 derniers épisodes, c'est genre part 1, part 2, part 3, part 4. C'est comme...
Ouais, c'est des gros arcs, puis c'est ça qui était...
Ils ont dit, la saison, fuck off, les, on a plus à s'inquiéter d'amener le viewer occasionnel qui va tomber sur un... On s'en crisse, là. Ouais. C'est la fin de l'histoire, on va la raconter. Ça fait que c'est ça pour mon petit discours sur Deep Space Nine.
C'est très bien.
Ça fait que, il nous reste combien de temps?
Hein? On est correct, là, on a 23 minutes.
Ouais, c'est pas beaucoup.
Ben, c'est en masse, là. Okay. On va voir, au pire, on va faire quelque chose.
OK. Au pire, on va le backupper.
Ouais.
On peut-tu... Ça fait que je viens de faire un gros discours sur Deep Space Nine. Ça fait que je vais te laisser commencer pour la prochaine partie. On va te donner notre top 3 des futures séries ou films qu'on aimerait
que
voir.
Que j'ai modifié en écoutant toi parler de Star Trek, mais pas vraiment. Mais je vais commencer. Vas-y. Top 3 de qu'est-ce qu'on veut, le futur de Star Trek. Ce que j'ai fait des top 3, je vais juste aller un à la fois.
Oui.
Okay, je vais aller un à la fois. Je vais commencer le mien, puis on fera un back and forth. Ça doit pas être trop pire. Fait que moi, le futur de Star Trek, du fond de mon cœur, c'est la mort de Picard. C'est la numéro une chose que je veux voir du futur. Puis j'espère qu'on a un film ou une série. On avait parlé un petit peu de peut-être un genre d'Academy series où ce que Picard il y a un rôle de prof, ou j'ai de la misère à voir Picard dans un rôle comme ça, ça me gosse un peu.
Mm-hmm.
Mais j'aimerais voir de quoi qui nous finit Picard. Tu sais, on disait tantôt, on vient de dire comment est-ce que les personnages sont pas sacrés. Picard, il est crissement sacré en ce moment dans mon livre à cause de Stewart. Stewart est plus important que le personnage, je trouve, l'acteur. Mm-hmm. Puis je ne vois pas personne en ce moment, je trouve.
Ben, c'est comme dans. Si c'est un vieux Picard, c'est sûr qu'il faut que ce soit Stewart.
Mais je comprends, mais.
Il ferait un remake de TNG.
Whatever. On n'est pas là pour le remake de TNG.
Ouais.
Mais qu'est-ce que je veux dire, c'est que. On vient de mentionner comment est-ce que. On voit pas. Tu sais, c'est Zachary Quinto.
Ouais.
Mais tu sais, Spock, le vrai. Leonard Nimoy, il n'est plus là. Kirk, on a What's His Face, c'est que je suis un petit peu trop ça brosse de me rappeler, mais on a un Picard. On peut pas le toucher, je trouve, en ce moment, parce que on a Patrick Stewart qui est là. Patrick Stewart qui est vocal en plus en ce moment, en disant qu'il est ouvert à ça. Il y a du press junket qui se fait où ce que Picard il est prêt, Stewart il est prêt. Mais que ce soit un film, que ce soit une série. Le fameux film de Tarantino, j'espérais que ça soit de quoi du genre.
Mm-hmm.
Ou ce que ça soit pas sur un vaisseau, mais que ça soit dans l'univers de Star Trek. Ça va toucher mon autre suggestion tantôt, mais j'aime un Star Trek. Pour moi, Star Trek, l'Enterprise est le centre du show. Tout ce qui est à part de ça, c'est des séries secondaires. Gros respect à Deep Space Nine quand même, là.
Mm-hmm.
Mais pour moi, la Enterprise, c'est un des piliers principaux de tout ce qui est Star Trek. Et j'aimerais voir Picard dans le film de Tarantino, comme qu'on pensait qu'il voulait faire. Je suis sûr que c'est quelque chose comme ça. Ou ce que c'est fucking Picard dans un village dans le nord de la France, en train de faire du regular day fucking shit avec des visites ou des mémoires ou je sais pas trop quoi. Mais c'est quelque chose comme ça que j'aimerais voir de Picard. Puis pour moi, dans mon top 3 du futur de Star Trek, c'est une fin à Picard pour qu'on le boucle. Parce que je trouve qu'il mérite. La série, on en avait parlé l'autre jour, la série TNG s'est très bien fermée. Mais ils ont tout réouvert avec les estis de films. Puis je veux pas chier ces films, là. Je suis content qu'il y ait eu des films. Mais ça l'a pas aidé en termes de lore de Star Trek. C'est du gros focaillage. C'est fun à regarder, mais ça sert à rien. Puis je trouve que Star Trek, comme à part du original series, à part des reboots qui sont plus comme compartimentalisés comme des épisodes ou une nouvelle affaire. Je trouve que Star Trek, ça prête pas bien à un film.
Non.
Puis c'est pas méchant, là, comme puis je suis un des plus grands fans de Star Trek. Tu parles d'un gars qui a eu une estime de larmes dans les yeux quand il a vu la Enterprise pour la première fois dans le premier film de J.J. Abrams. Comme la voir se faire construire avec fucking Kirk, qui est embêté quand elle l'a regardé se faire construire. Comme juste à y penser, j'ai des larmes aux yeux. T'sais, j'aime les films, mais je trouve que c'est pas le meilleur médium pour les Star Trek.
Pis, c'est un bonbon, je trouve.
C'est ça. Puis je pense qu'un bon bonbon, ça serait Tarantino qui nous close le livre sur Picard à sa manière. Puis ça, c'est juste mon petit rêve, mais ça, c'est un de mes top 3. Puis je vais te le backer à le tien. C'est pas en ordre en passant, là, mais.
Ah, c'est bon. Mon premier a un petit peu rapport avec Deep Space Nine, à mesure
où... Ah oui, pour vrai?
Ben,
on dirait que t'es dans le Deep Space Nine, dernièrement, Mario.
Ça a rapport avec Deep Space Nine, mais c'est que dans la dernière saison de Deep Space Nine, il y a une race qui avait déjà été un petit peu établie avant, qui se joint au Dominion, c'est les Breen, qui ont une espèce de casque que tu vois jamais leur visage.
Ah, un peu comme dans Mass Effect, là, les...
Ouais, un peu comme les...
Ouais, on sait de quoi qu'on parle.
La fille Talia, là.
Ouais, c'est comme les Talia, là.
Tu vois jamais leur visage. Puis, on sait rien sur cette race-là. Puis là, ils se joignent au Dominion. Puis genre, la première chose qu'ils font, c'est... Ils attaquent Starfleet Headquarters.
Ils sont comme, là, ils guys!
Sont comme, là, ils sont comme...
C'est pas ça
qu'on dit. What the fuck? T'as comme Worf. Oh, so the Breen are warriors. Là, tu comprends, on sait rien de cette race-là. Puis, il y a une scène vraiment intéressante où est-ce que, tu sais, tout le monde dit, ah, les Breen, ils ont comme des espèces de soutes réfrigérées parce qu'ils viennent d'une planète très, très froide. Puis là, à un moment donné, t'as Weyoun, un des Vorta dans le Dominion, qui parle avec Damar, puis comme... Damar est comme, on connaît rien d'eux autres, blablabla. Bla, bla. Parce qu'ils prennent un peu la place, l'importance des Cardassiens dans le Dominion. Puis c'est là que le Damar commence à. Puis là.
T'es tellement là, fresh dans ton Deep Space Nine, je comprends rien.
Puis là, il y a Weyoun qui dit, I heard they don't even come from an icy planet. I heard it's really hot on their planet. Puis là, Damar est comme, so why they wear refrigerators. Pourquoi ils ont des soutes réfrigérées? Puis il est comme. Il fait juste comme hausser les épaules, puis il est comme, c'est ça, je te dis, ils sont mystérieux. Puis c'est comme, là, tu.
Mais c'est pas mystérieux de venir d'une planète chaude où ce qui porte des affaires froides?
Ben, au fond, c'est qu'eux autres font croire qu'ils ont besoin de ces soutes-là parce qu'ils viennent d'une planète froide, mais personne sait de.
Mais avoue que s'ils viennent d'une planète chaude, le sout de froid, ça serait peut-être plus intelligent. Mais ils ont
besoin de ça pour survivre.
Mais je sais pas, peut-être qu'il est devenu chaud. En tout cas, ils sont mystérieux.
Mais c'est juste pour dire que, genre, ils mentent sur qui ils sont vraiment. Puis, on connaît rien de cette race-là. Puis, tu comprends qu'ils sont quand même fucked up. Puis, ça fait tout ça pour dire que j'aimerais ça un show qui est comme post-Nemesis. Que c'est un peu les Breen qui sont comme un peu fâchés de la défaite vu qu'ils sont joints à Dominion puis qu'ils ont perdu. Qui là, ils veulent se venger contre la Fédération. C'est une série où est-ce que les Breen, c'est le vilain principal, mais que là, on découvre tranquillement qui sont les Breen. C'est un peu comme dans Battlestar Galactica, tu sais, t'as les Cylons, puis là, tu comprends pas trop leur motivation, puis leur culture, puis tout ça, puis au cours de la série, t'es découvres, t'as des twists, puis tout ça. C'est qu'une série comme ça, où est-ce que les vilains sont comme ultra mystérieux, puis qu'ils font des affaires fucked up, puis que tu sais, peut-être que finalement on pourrait découvrir qu'ils ont un lien quelconque avec les humains qu'on sait pas, tu sais.
Ouais,
je trouve que ça pourrait être cool, tu sais, de vraiment comme fleshed out cette race là parce que le potentiel est là, tu sais.
Ouais.
Puis il y a ces indices là qui ont été comme laissés que finalement, tu sais, il y a comme pas vraiment eu de payoff par rapport à ça. Mais que ce serait le fun de revoir cette race-là puis de découvrir.
Bien d'accord. Moi, il y aurait une affaire, puis ça fait des années, je sais pas si c'est sûrement un des top 3, je pense peut-être, là. Mais une série qui se passe à San Francisco sur l'Académie. Ça fait des années que c'est quelque chose que j'aimerais voir. Un jeu que j'ai toujours aimé de Star Trek, c'était Starfleet Academy, que j'aimais au bout parce que c'était juste des assist training machines weird avec des petits side stories sur le côté. Mais j'aimerais voir une série qui se passe à l'Académie de la Fédération, à San Francisco, ben fucking normal, peut-être des sorties à chaque temps en temps, mais c'est quelque chose que j'ai toujours voulu voir. C'est un. Je trouve que la planète Terre, dans le monde de Star Trek, n'est pas assez exploitée. C'est juste, elle est juste le petit point bleu que tout le monde rêve de. Mais je trouve que vivre de quoi. Comme quand tu joues à Star Trek Online dernièrement, t'as les premières quests dans Star Trek Online où ce que t'es à San Francisco dans les Sith Fucking Academy. Puis moi, c'est ça que j'aimerais vivre ça en série long terme. Mais je trouve que Academy Star Trek, c'est quelque chose qui est absolument nécessaire
Puis ce serait une
dans le
façon
futur.
de établir c'est quoi vraiment vivre dans la société humaine.
Ça aussi, ça c'est quelque chose que je veux
Les
voir.
fucking. T'sais, on dit il n'y a pas d'argent, mais comment ça fonctionne, tout ça,
Tout
t'sais.
voir ça, là, ça serait hot, ça.
Ça, c'est vraiment,
Three
vraiment cool.
Seashells et tout, là, ça va être mental, là. Mais c'est quelque chose qui m'intéresse au bout, puis j'ai toujours voulu, comme tu dis, là, parler de juste la vie normale. Comme j'avais fait la joke tantôt de le film de Tarantino, ce que c'est juste fucking Picard, de se dans un institut de champ de vin, en train de fucking qui se fait appeler pour faire de quoi, puis il veut
Finalement,
pas,
c'est comme
puis.
c'est en western, ils nous défendent sur la
C'est
CB.
ouais, mais c'est ça, des affaires comme ça, là, tu sais, je m'en fous, là. Mais voir la vie normale dans la Fédération à cette époque-là, puis à travers de l'Académie, post-TNG en passant, c'est quelque chose que j'aimerais ça beaucoup voir. On est correct, continue.
T'as fini?
C'est mon deuxième, ouais. Je te
Ok.
laisse donner ton deuxième.
Ok, mon deuxième.
Ah, t'avais pris les notes pis tout,
Ouais.
nice. C'était-tu l'Académie?
Non, le troisième, c'est l'académie. Mais
Ah.
mon deuxième,
On a dû en discuter avant,
c'est.
mais c'est sûr que quelqu'un l'a
Tu
trouvé.
sais, entre The Original Series puis TNG, il y a eu un saut dans le temps. On a fait comme fuck off, on s'en va dans le futur. Après ça, on est comme resté avec Voyager, puis les Space Nine est resté comme à la même époque un peu. Ça fait que, tu sais, je me dis. Ben, fuck off, on refait un saut dans le temps, tu sais. 25e, 26e siècle, whatever.
Enterprise Q.
Puis, je me dis, ce serait intéressant de sauter dans le futur, puis, hey, il s'est passé de quoi? La fédération n'existe plus, la fédération a été comme fracturée, whatever. Puis que là, c'est comme, on essaie de rebuild ça, puis on essaie de rebuild ça sur les idéaux établi par les héros comme du passé, comme Picard, comme Kirk, puis tout ça, tu sais. Ça fait que, tu sais, de faire un hommage, que c'est un hommage à ce qui est venu avant, puis de dire, ben, les choses évoluent pas de façon linéaire, puis tout ce qu'ont eux autres qui ont fait n'a pas été en vain parce que maintenant ça a été détruit, mais que ce qu'eux autres ont fait nous permet aujourd'hui de reconstruire, tu sais.
C'est bon ça.
Ça fait que tu sais, de vraiment faire un saut dans le futur. Puis, tu sais, une des raisons pourquoi des fois qui ont dit que souvent les nouveaux shows de Star Trek s'en vont dans le passé, parce qu'ils disent, ah, ben la technologie est moins développée, ça fait que ça donne plus de liberté au niveau du storytelling. Mais il n'y a rien qui t'empêche d'aller dans le futur puis de dire, ben, on est dans le futur, mais la fédération n'existe plus, ça fait qu'on n'a plus autant de ressources ou whatever, tu sais. Puis on pourrait amener il pourrait aussi fonder
Temple
l'espèce
de
de
Jedi.
non le l'espèce d'agent temporel là
Ah
qu'on voit
oui!
dans Enterprise
Le Future Police.
ou carrément une série que c'est juste comme des agents temporels qui s'en vont à différentes
Ouais, mais
époques
ça, c'est ouvert à tout. Ça, c'est The Orville, ça.
À différentes ils s'en vont à différentes époques de Star Trek pour tout le temps comme corriger les timelines ou whatever.
Ah, c'est bon, ça.
Ça c'était un peu ma deuxième idée. Puis je te laisse aller avec ta troisième.
Ma troisième est très simple, puis non, ce sera pas le nouveau début des les Klingons, hein. Mais ma troisième que j'avais pensé à, c'est très simple. C'est juste un autre show de l'Enterprise, un autre jeu de Star Trek à la bien simple Enterprise, mais c'est Enterprise C, pas compliqué. Moi, la Enterprise C, Yesterday's Enterprise, c'est quoi le nom? C'est l'épisode avec Yar là, qui
retourne. Moi, c'est Yesterday's Enterprise.
Ouais. La C, tu sais, j'ai mon fameux poster de l'Enterprise D coupé en paille que j'adore quand j'étais petit. Il va falloir que je me le réajette un jour. Là. Je pense que j'aurais de la place à le mettre sur les murs ici, en bas. Mais t'as l'Enterprise B est là, c'est quelqu'un qui est mort, blablabla, on s'en fout. On s'en fout pas, mais tu sais, c'est ça. Mais l'Enterprise C, je trouve qu'elle représente de quoi? C'est la plus proche à l'Enterprise D. Elle a eu une très longue mission. On sait tout qu'elle disparaît à un moment donné, puis ça finit. Mais j'aimerais voir, c'est sûr que ça aurait été très intéressant de juste faire de quoi bien simple, TNG, sur le C. Donne-moi 2-3 saisons, des shows weird, les aventures que la C elle aurait eues. C'était une classe de vaisseau quand même intéressante. Il n'y a pas de civils. Je pense qu'il y avait des civils sur celle-là, en fait. Mais c'est ça, juste un épisode sur Enterprise C. Appeler Enterprise encore. Je sais pas comment l'appeler, là. Star Trek, je sais pas c'est quoi le nom. Mais voir juste de quoi de standard, je me répète, mais juste classique Star Trek, Formula, vaisseau, exploration, mais avec une vraie Enterprise qui n'a pas été flushed out assez. On voit la fin de cette Enterprise-là, mais elle a eu quand même une couple d'années à l'espace à faire des missions.
Ouais.
Puis je pense que c'est la Enterprise parfaite pour faire de quoi qui ressemble à un juste milieu de qu'est-ce qu'on veut d'un show d'Enterprise, qui est pas la première, pas la douzième, et juste dès dans un beau sweet spot de l'histoire qu'on connaît pas grand-chose du lore, puis elle mérite ce show-là. Puis c'est un beau vaisseau aussi.
Mm-hmm.
C'est ça, c'est simple. Très simple, très simple.
Ça fait que mon troisième point, c'est Starfleet Academy.
Ouais, ça c'est easy. Ouais.
Mais rôle principal, c'est Picard, Patrick Stewart. Il est prof ou amiral, mais whatever.
Prof, je le vois pas comme prof.
C'est le groundkeeper.
C'est le Dumbledore, là. Ouais,
mais il est dans une position de mentor. Puis, tu sais, je me suis posé la question. Puis, faut finir l'histoire de Picard, c'est quoi le truc qui manque à Picard?
C'est qu'il laisse une impression sur la Fédération.
Non, c'est que il laisse un legacy, il laisse une famille. Parce que...
Non.
Oui, écoute, il y a une logique à ce que je dis.
Oui, mais elle est bonne la logique, je sais qu'est-ce que tu vas dire.
Donc, tu sais, dans TNG, à un moment donné, on découvre qu'il y a un frère, puis un neveu. Puis on découvre que... il y a un certain conflit avec son frère. Lui, il a fait le choix de devenir un capitaine et de peut-être pas continuer la lignée des Picard parce que c'est une vie solitaire. Il se réconforte dans l'idée que son frère et son neveu vont être là et vont continuer les Picard. Puis qu'est-ce qui arrive au début de Generations, la première scène des Generations, ça. Il apprend qu'ils sont morts, puis que lui, ça va être le dernier de sa lignée, puis qu'il va rien laisser. En tant que capitaine, capitaine, il va laisser quelque chose.
Une grosse legacy.
En tant qu'être humain, en tant que Picard, il va rester plus rien.
C'est quoi la première affaire qu'il voit dans le Nexus?
C'est ça, une famille. Donc, je le vois pas avoir comme des enfants dans cette série-là, mais peut-être qu'il va développer une relation père-fils ou père-fille avec un autre personnage qui va être un peu la vedette de la série aussi. Et que c'est, on amène cette évolution-là où est-ce que finalement...
As-tu fait ton spec? Tu vas te l'envoyer?
On amène cette évolution-là où est-ce que peut-être qu'il accepte qu'il n'y aura pas de famille, peut-être qu'il va en tant que Picard, mais peut-être qu'il va quand même laisser un certain legacy humain à travers cette autre personne-là. Donc pour moi, ce serait ça. Parce que Picard a eu sa finale en tant que capitaine, en tant qu'explorateur. Pour moi, c'est la fin de TNG, dernier épisode. Maintenant, c'est Picard l'humain, lui, il laisse quoi, tu sais? Oui, c'est quoi sa finale? C'est
l'Enterprise, man. C'est ici qu'on s'en calisse.
C'est ça. Ça fait qu'on s'en calisse de l'Enterprise. Ça fait que c'est pas
Picard. Post-Nemesis, il est comme fuck this shit.
C'est pas Picard sur l'Enterprise, c'est Picard dans la Starfleet Academy ou Starfleet Headquarters ou à San Francisco. Ça rejoint hein, aussi les concepts qu'on peut découvrir. C'est ça, puis on peut le découvrir avec Picard. C'est découvrir, tu sais, puis d'ailleurs dans le puis ça remonte pas juste à l'épisode où est-ce qu'on voit son frère, ça remonte au dernier épisode qu'on a vu, le pilote, où est-ce que la première chose, une des premières choses qu'il dit à Riker, fait en sorte que j'ai pas l'air d'un asshole devant les enfants, parce que je sais pas comment agir avec les enfants. Après ça, tu comprends que Wesley puis Crusher, il y a une certaine relation avec. Puis tu comprends que peut-être que c'est là qu'il s'en allait avec ça, tu sais. C'était peut-être l'idée initiale d'avoir ces personnages-là, que c'est que Picard allait comme devenir un peu le Wesley père de Wesley.
Wesley est devenu une vapeur dans le temps.
Ça fait que, mais finalement, ça a comme pas tant abouti. Donc... il y a cette sous-intrigue-là de la vie de Picard qui n'est pas résolue. Il n'y a pas une paix avec ça, tu sais. Mettons qu'il meurt là, ben ça, c'est un unfinished business pour moi, tu sais.
Je suis d'accord avec ça.
Ça fait que je pense qu'il y a ce côté-là humain de Picard qui a besoin d'être clos.
Absolument d'accord.
Parce qu'en tant que, capitaine, en tant qu'explorateur, il a fait ce qu'il avait à faire. Je pense qu'il ne peut pas rien faire de plus grandiose qu'il a déjà fait.
Lui, Picard, il était admiral post-Enterprise D. Il a décidé de juste continuer ça parce que c'est une petite tête dure et il veut pas s'installer. Là, fait.
Ça fait que maintenant, c'est. Une fois il veut ça, fuir. Une fois, il veut ça, fuir. Une fois ça fini, comment qu'il se définit en tant qu'humain, en tant que Picard, tu sais. Ça fait qu'une série qui explore ça, qui est vraiment plus intimiste, si on veut, mais c'est ça que j'aimerais voir pour comme la fin de l'histoire de Picard. Puis, tu sais, je verrais ça une ou deux saisons, là, pas plus que ça. Ça pourrait être une mini-série, même.
Genre, moi, je trouve qu'il devrait faire une approche à les séries britanniques, là, tu sais, 12 épisodes,
fucking film. Ouais, pas de filler, là, c'est vraiment genre...
On a mais Discovery est en train de mettre ça sur la table,
puis c'est bon. On fait ça, tu sais.
Good.
Voilà.
Donc, on a une minute pour closer. On a bien aimé ça.
On espère que vous avez apprécié cet épisode-là, qui était plus discussion, sans parler d'un...
Mais j'ai aimé ça, moi, honnêtement. Ouais, j'ai aimé notre test de l'épisode 11-10. Mais je pense qu'on avait parlé vite fait, ce serait fun de garder ça juste pour comme peut-être des films ou des affaires de même. Mais j'ai aimé ça. Mais ça, c'est la vraie affaire. On aime bien ça. Moi, j'aime bien ça.
Ouais, c'est une formule un petit peu plus libre. Ou est-ce que. C'est ça, tu sais.
Mais
on parle juste de choses que s'il nous tente de parler.
Mais ouais, finis
parce
ça.
Parce que finalement, il y a le pilote de. Le TNG, il y avait bien des longueurs puis bien des bouts parce qu'on n'avait rien à dire. C'est, que, c'est ça, continuez à nous suivre sur Facebook, sur SoundCloud, sur Google Play, sur toutes les places où est-ce que vous faites downloader des podcasts, on va être là, on est répertorié. Donc, merci encore de nous écouter.